Le poisson volant livre ses songes. Le poisson volant.
C'est ici qu'il a disparu.
La ville et cette chose scintillante. Mon double rapetisse
en face.
Mon double quant à moi. Non, un courant d'eau.
Donne des ailes à l'astre du désir.
Des ouvriers sur un toit me font des signes.
On est toujours au bord de la prochaine métamorphose. Et c'est exactement le monde du songe.
Alors que nous étions presque au ras de l'eau, il fit demi-tour et revenant de plusieurs longueurs sur ses pas, il se mit à secouer la tête. De l'air d'une personne sur le point de manifester une conviction profonde que les apparences s'obstinent à démentir.
C'est-à-dire, dès qu'on tient une quasi-certitude,
ce faisant, il ne cessait de scruter les fourrés, huit, les arbres, les accidents de terrain, l'eau. Et nous, nous attendions, indécis autour de lui.
Quelque chose va intervenir qui va complètement modifier, comme on a une tragédie qui va se modifier au fil des heures dans le bois.
Enfin, nous regardons, et toujours avec cette même expression de défiance et de conviction profonde, il commença de dire « Voilà une terre sans… »
Il va parler de monde multiple, au lieu d'avoir ce monde unique entouré de sphères, à l'aube d'un nouveau monde et d'une nouvelle…
« Voilà une terre sans… » 7. C'était exactement ce que disait le capitaine lorsqu'une flèche vint lui traverser la gorge. Si rapide et inattendue, partie des fourrés qui se dressaient derrière lui, qu'il demeura les yeux grands ouverts, immobilisé quelques instants sur son geste probatoire, avant de s'effondrer. Pendant une fraction de seconde, il ne se passa rien. Sauf que je constatais avec stupeur que tous ceux qui accompagnaient le capitaine, à part moi, gisaient par terre, immobiles, traversés en différentes parties du corps, mais surtout à la gorge et à la poitrine, par des flèches qui semblaient être sorties du néant, pour venir se ficher, exact, dans leur corps pris au dépourvu. 6. Tandis qu'un groupe s'occupait de rassembler les cadavres, le reste m'entoura et se serrant autour de moi et me montrant du doigt, me touchant doucement avec de petits rires satisfaits et admiratifs, se mit à proférer sans discontinuer les mêmes sons rapides et criards. Cela aussi fut de courte durée. L'impression de flotter, d'être ailleurs, était beaucoup plus forte en moi que la terreur. Cinq. Les hommes nus et basanés chargèrent les cadavres et se dirigèrent vers les fourrés, m'emportant avec eux, agiles et au pas de course, comme s'il ne leur en coûtait aucun effort, de sorte que je me vis obligée de courir durant pas moins d'une heure, flanqué de deux Indiens robustes qui me tenaient chacun par un bras, une poigne ferme mais sans brutalité, me guidant habilement parmi les accidents du terrain, mais sans m'adresser la parole ni me regarder une seule fois. Il paraissait connaître par cœur chaque arbre, chaque sentier, chaque fourré. Quand au bout d'une heure, ils s'arrêtèrent au bord d'une petite rivière tranquille, à l'ombre de quelques arbres, ils ne haletaient pas. Après toute une heure passée à voir défiler un paysage inconnu, altéré par les sauts auxquels m'obligeait ma course ininterrompue, de telle sorte que le visible autour de moi tremblait et paraissait changeant, difforme, capable de se déplacer verticalement et horizontalement, comme si chaque chose fût constituée de plusieurs couches identiques mal superposées. 4. Il ne me parut pas moins étrange et singulier de voir une autre portion de ce paysage inconnu à l'état de repos.
Et puis en plus, il est perturbé par le fait qu'il entend ce qu'il devrait voir, il voit ce qu'il devrait écouter.
Enfin, mes accompagnateurs, passant derrière la hutte près de laquelle conversaient les trois vieilles, m'introduisirent dans une des habitations. Toute vie est un puits de solitude, trois, qui va se creusant avec les années. Et moi qui, plus que les autres, viens du néant à cause de ma condition orpheline, j'étais déjà prémunie depuis le début contre cette apparence de compagnie qu'est une famille. Mais cette nuit-là, ma solitude déjà grande devint d'un coup démesurée. Comme si dans ce puits qui peu à peu se creuse, le fond avait cédé, brusque, me laissant tomber.
Dans le noir.
Je me couchai par terre et me mis à pleurer. À présent que je suis en train d'écrire, que les grattements de ma plume et les grincements de ma chaise sont les seuls bruits qui résonnent, net, dans la nuit, que ma respiration inaudible et tranquille soutient ma vie, deux, que je peux voir ma main, la main fripée d'un vieillard, glisser de gauche à droite et laisser une traînée noire à la lumière de la lampe. Je m'aperçois que, souvenir d'un événement véritable ou image instantanée, sans passé ni avenir, fraîchement forgé par un délire paisible, cet enfant qui pleure en un monde inconnu assiste, sans le savoir, à sa naissance. On ne sait jamais quand on naît. L'accouchement est une simple convention. Beaucoup de gens meurent sans être jamais nés. D'autres naissent à peine. D'autres mal. Un, comme avorté. Certains, par naissances successives, passent de vie en vie. Et si la mort ne venait pas les interrompre, ils seraient capables d'épuiser le bouquet des mondes possibles à force de naître sans relâche. Comme s'ils possédaient une réserve inépuisable d'innocence et d'abandon. Tout bâtard que j'étais, je naissais sans le savoir. Et comme l'enfant qui sort ensanglanté et étourdi de cette nuit obscure qu'est le ventre de sa mère, je ne pouvais faire autre chose que de me mettre à pleurer. D'au-delà des arbres me parvenait constante la rumeur des voix rapides et criardes, l'odeur matricielle de ce fleuve démesuré. Et je finis par m'endormir. Zéro.